C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, nous sommes bien le mardi 5 novembre 2024. Il est à peu de choses près maintenant, 14h01 sur l'horloge de radio où je me trouve pour un nouvel épisode de votre émission Ciné-100, la seule émission du PAF qui ne s'intéresse pas aux élections américaines, mais qui parle de cinéma, de tous les cinémas. Alors comme d'habitude, dans le studio, pour m'accompagner durant cette heure, vous avez la chance de retrouver la seule, la vraie, l'incroyable, la reine des neiges des ondes qui nous enchante de ses blagues et de ses chansons. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Patrick, vous allez bien ?
Oh, je vais très bien, et vous ?
Écoutez, ça va.
Alors, l'architecte de cette émission numéro 10 a pris une journée de sabbatique.
Ben oui.
Donc voilà, on le salue quand même, hein, on lui dit coucou.
Je sais pas.
Oh, bon, on va le savoir, je le salue quand même, parce que c'est un ami. Alors, depuis la rentrée de Ciné-100, certaines modifications ont vu le jour, comme celle que nous vous proposons aujourd'hui, où nous avons choisi une femme et un homme qui ont fait l'actualité du cinéma depuis que celui-ci existe. Dans des domaines très différents, vous l'allez voir. Ce jingle était incontournable.
Et magnifique. Et avec la première personnalité, nous allons plonger dans un univers flamboyant et audacieux, celui de Quentin Tarantino, figure incontournable et incontestable du cinéma contemporain. Tarantino, né le 27 mars 1963 à Knoxville, dans le Tennessee, a su au fil des ans se forger une identité unique à travers son écriture et sa mise en scène. Tarantino, oui. C'est d'abord un style, une touche inimitable.
Alors, il est reconnu pour ses dialogues acérés, souvent ponctués d'une bonne dose d'humour noir. Ses personnages, que ce soit dans Pulp Fiction ou dans Kill Bill, sont à la fois mémorables et complexes, naviguant entre l'absurde et le tragique. Cette capacité à créer des échanges dynamiques et captivants font partie de son charme indéniable.
Prenons par exemple la fameuse scène dans Pulp Fiction,
oui,
où Jules et Vincent discutent de la signification d'un royal cheese.
Prenons-la.
Putain, la vie en Europe, c'est trop marrant.
Pourquoi ?
Bah, c'est différent. C'est pareil qu'ici, du point de vue d'un tas de trucs, mais y a juste de légères différences.
Exemple ?
Si je te disais qu'en Hollande, au cinéma, on peut boire de la bière, et de la bière que t'es pas obligé de boire dans un putain de gobelet, et à Paris, on peut en boire dans les McDonald's, et devine comment ils appellent, tiens, un quarter pounder with cheese, à Paris.
Pas un quarter pounder with cheese ?
Mon cul, ça a pas de sens, quarter pounder, avec leur système métrique.
Mais alors quoi ?
Ils disent Royal, Royal Cheese.
Ah ouais, Royal Cheese.
Eh ouais.
Et un Big Mac ?
Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac.
Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper ?
J'en sais rien, je suis allé dans aucun Burger King. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande au lieu du ketchup ?
Non, quoi ?
La mayonnaise.
Les salauds.
Tu vois le tableau des frites noyées dans la mayonnaise.
Et ouais. De par son immense culture cinématographique, Tarantino excelle dans l'art de l'hommage. Chaque film qu'il réalise est imprégné de références à ses influences, qu'il s'agisse de films de genre, de série B ou de films cultes. Kill Bill est un hommage au film du kung-fu. Inglourious Basterds revisite l'histoire en offrant une version alternative de la Seconde Guerre mondiale. Ce jeu d'écho et de référence ne fait pas de Tarantino un simple copiste, mais un véritable créateur.
L'un des aspects les plus intrigants de son travail est la structure narrative non linéaire. Ce choix stylistique, visible dans Reservoir Dogs ou encore dans Pulp Fiction, défie les conventions et incite le spectateur à participer activement à la construction de l'histoire. En fragmentant le récit, Tarantino crée une tension palpable et maintient l'intérêt du public, le poussant ainsi à reconstituer l'histoire.
Et puis nous y reviendrons, n'oublions pas l'impact des bandes-sons, et notamment des bandes originales. Un exemple avec celle de Once Upon a Time Time in Hollywood, qui regroupe des chansons pop-rock des années 60, dont 1213 des Mamas and the Papas.
Ah oui, bien.
Outside my window was a steeple with a clock that always said 12:30. Young girls are coming to the say good morning and really mean it. To feel these changes happening in me.
Comme le disait Maurice Chevalier, dans un spectacle, ce qui compte, c'est le début et la fin. Très bonne imitation de Maurice Chevalier. Au cinéma, bah, c'est pareil. Pour un spectateur, rater l'un ou l'autre gâche le plaisir. Encore que pour rater la fin, il faut vraiment le faire exprès. Pour ce qui est du début, arriver en retard à une séance génère deux désavantages. Le premier, c'est de se passer d'une péripétie éventuellement capitale de l'histoire, et ça, c'est plutôt ballot.
Et le second, et non des moindres, c'est de résoudre un problème essentiel. Comment trouver un siège libre dans le noir de la salle ?
Ah ben.
Eh bien, il faut patienter jusqu'à ce que nos yeux s'accoutument à l'obscurité ambiante, aidés par ces faibles lumières accrochées aux marches, lumières qui nous désorientent plus qu'elle nous guide.
Et oui, c'est à ce moment-là que l'on vient à regretter celles que l'on appelait les ouvreuses.
Oui, celles qui indiquaient au retardataire un fauteuil encore disponible au moyen d'une lampe de poche, tout en veillant à ne pas déranger la séance. L'ouvreuse faisait partie du décorum de la salle de cinéma d'antan. Avant la fin et durant l'entracte, elle déambulait dans la salle le long des allées de fauteuils munies de son lourd panier en osier, garni de bonbons, de réglisse et de glace.
Et vous avez connu les ouvreuses, Annelise ?
Oui, j'en ai été 21.
Ah, mais en effet, vous avez mieux bien connu les ouvreuses alors. oui, alors les ouvreuses représentaient un métier important pour les exploitants de salles. Elles étaient des facteurs de communication. Par exemple, une ouvreuse sympathique était à l'écoute des clients et devenait ainsi un vecteur d'appréciation et incitait les spectateurs à revenir dans ce cinéma pour l'amabilité de son personnel.
Dans un reportage de 1981 tiré des archives de l'INA, une ancienne ouvreuse de cinéma qui avait officié pendant 30 ans racontait des anecdotes sur les anciens cinémas qu'elle avait connus.
Tinoche du samedi soir et son ambiance bon enfant, où les grands-mères venaient avec des briques chaudes enveloppées dans du papier journal parce que les salles étaient peu chauffées. Madame Fromentin, ouvreuse pendant 30 ans, l'a bien connue.
Il y avait 3-4 prix, il y avait plusieurs catégories. Les 4 premiers rangs, c'était des fauteuils bois. Puis après, des fauteuils recouverts, mieux, plus confortables. Et puis après, les fauteuils velours.
Là,
et ensuite, le balcon, oui. Alors on faisait des suppléments, on avait toujours le tricheur. Il rentrait, il allait aux toilettes, il revenait, il reculait un petit peu, on le courait derrière.
Une époque où les films étaient en noir et blanc et où les ouvreuses nouaient des liens d'amitié avec les spectateurs.
À tel point, comme je dis, les gens qui travaillaient venaient, ils me confiaient les enfants et je gardais les enfants jusqu'à la sortie, je ne les laissais pas partir jusqu'à ce qu'il y ait un des parents qui vienne les chercher.
Vous connaissiez alors les clients du cinéma?
Ah oui, sûr.
Extraordinaire.
C'est fabuleux, oui. Alors, ce petit métier, bon, c'est un petit métier, mais qui était payé au pourboire et au pourcentage sur la vente des confiseries, a subsisté jusque dans les années 80. Bon, ben, il a disparu avec l'apparition des multiplexes, même si certains, très rares, ont encore recours à leurs services.
Aujourd'hui, les spectateurs cheminent seuls dans les salles, se servent de leur espace de confiserie, importent source de chiffre d'affaires pour les établissements cinématographiques. En imitant Michel Audiard, on pourrait rajouter que si les multiplex ont additionné les salles, ils ont aussi soustrait des emplois.
Alors, ouvreuse est un petit métier qui a disparu comme ont disparu des petits cinémas de quartier. Tiens, tel celui de Pierre Barou.
Le petit ciné d'en bas de chez moi, dans ma banlieue à Levallois, depuis hier, a des manières qui me chagrinent. Lui qui portait jusqu'à mon lit des relents de bruits infinis, c'est désolant, garde un silence de vitrine. Je ne devrais peut-être pas le juger si vite, s'il a tant changé. Je vais attendre jusqu'à demain, je verrai bien. Le petit ciné d'en bas de chez moi m'a plongé dans un tel émoi en se taisant que je suis en pleine insomnie. Et je reste là consterné à revoir les vieux westerns et tous les charlots qui me parlent au cœur de leur vie. Toute la nuit j'ai confondu mes rêves aux remous attendus qui, je l'espérais, me viendraient de mon ciné. Le petit ciné d'en bas de chez moi, au petit jour, restait sans voix, découragé. J'allais plonger dans l'inconscience, quand soudain un bruit familier de fusillade sans pitié m'a tout à coup rendu le goût de l'espérance. Comme un fou dans les escaliers, j'ai couru pour me retrouver au milieu des marteaux piqueurs des ouvriers qui posément démolissaient le petit ciné d'en bas de chez moi.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, 2-3 fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Vous avez bien raison,
madame,
c'est dingue.
Et oui, vous avez reconnu, c'est dingue, ce petit jingle qui nous amène au ciné, télé, canapé, pour savoir ce qu'il y a cette semaine à la télé.
Alors, ce soir, moi, j'en ai un qui me paraît incontournable. Oui. 21h sur Canal+.
Oui.
La zone d'intérêt de Jonathan Glazer avec Christian Friedel, Sandra Hüller, Freya Kreuzmann. Bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Hoss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin qui se trouve juste à côté du camp d'extermination. Mais quand Rudolf Hoss est en passe d'être muté dans une autre ville, sa femme refuse de quitter sa maison dans laquelle elle est heureuse.
Oh. très bien.
C'est un film d'une force absolument incroyable.
D'accord. D'autres pour ce soir ?
Pour ce soir, je n'ai que cela,
mercredi.
Madame.
Mercredi.
Oui, allez-y, si vous avez
mercredi,
quelque chose.
J'en ai un, mais tard, à 23h35
ah, oui,
sur Arte.
Je serai couché.
Qui s'appelle Jinpa, un conte tibétain. C'est de Pana Tseden. En fait, Jinpa veut venger le meurtre de son père. En route pour la capitale, il rencontre un camionneur qui veut essayer de le dissuader de commettre l'irréprochable. C'est assez chouette. C'est un film assez, on va dire, assez en douceur. La photographie est absolument magnifique. Et c'est vraiment un très, très, très beau film et
très
une
bien.
Histoire très touchante.
Moi, si vous voulez, un tout petit truc sur Sister à 21h, un peu avant.
Ouais.
J'ai un petit film qui s'appelle Boutchou. D'Adrien Piquet-Gauthier avec Yannick Gautry, Carole Bouquet, Gérard Darmon. Paul et Virginie, un jeune couple, viennent d'avoir un garçon. Et ce dernier fait le bonheur de ses grands-parents. Mais comme les parents sont très pris, bah, ils peinent à trouver une nourrice et ils n'ont d'autre choix que de donner le petit garçon à garder aux grands-parents. Mais il y a une rivalité qui s'instaure entre les deux. Ils sont pas d'accord sur les méthodes d'éducation avec leurs enfants. Et tout ça, ça crée un peu la zizanie.
Eh ben oui.
Eh souvent. Oui, madame.
Allez, jeudi.
Jeudi, oui, j'en ai un magnifique.
Ouais, moi aussi, j'en ai un.
Le même, 21h05.
Oui.
Sur Chérie FM.
Chérie 25.
Ouais, enfin, c'est pareil. Oui. Gus Van Sand.
Ben oui, Will Hunting.
Ouais, magnifique.
Voilà, Matt Damon, Ben Affleck, etc.
C'est pas ta faute.
C'est très très beau sur un, on va dire, le parcours initiatique d'un jeune homme surdoué, blessé par la vie aussi,
ouais,
et qui va se faire accompagner par son professeur,
par un psychologue, ouais, ouais.
Et puis sa copine aussi, en tout cas une amoureuse. C'est un très très
beau très,
film
très
à voir.
Ah oui, ça je suis bien d'accord avec vous.
Vendredi,
alors moi j'ai un film qui va pas du tout vous plaire, Annelise, oui.
Ouais.
Alors c'est sur Paris Première à 23h10.
C'est quoi ?
C'est un film de David Fincher avec Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Fight Club.
Ah, merveilleux.
La règle numéro 1 du Fight Club.
C'est qu'on ne parle pas du Fight Club.
Très bien, vous connaissez.
Moi, j'ai sur France 5 un classique, La Guerre des Roses,
oui.
Avec Michael Douglas, Kathleen Turner, sur en fait un couple qui se déchire absolument.
C'est un remake d'un film français,
ouais,
La Zizanie.
Sur le divorce. Vendredi, samedi.
Samedi, j'en ai un.
Moi aussi, sur France 4, 21h.
Allez-y,
de Laura Vandel, Un monde, sur une petite fille en fait qui rentre en primaire et qui se rend compte que son frère, son grand frère, est victime de harcèlement à l'école et son père lui demande de veiller sur son grand frère, mais son grand frère refuse qu'elle en parle et du coup elle se retrouve confrontée entre faire plaisir à ses parents ou faire plaisir à son grand frère. Et elle se retrouve dans un monde de plus grand puisque elle rentre en primaire sur des responsabilités qui ne sont pas d'elle.
Pas les siennes.
Très très beau film.
D'accord.
Et
moi, sinon, moi sur Gulli, moi à 21h05, j'ai un petit film d'animation.
Mais
Chicken
oui,
Run.
Vu. Ouais, ouais, c'est
ouais,
sympa.
C'est super mignon. Voilà, c'est cool. Choupinou. Ça fait rire les enfants.
C'est clair. Dimanche, vous avez quelque chose ?
Oui, j'ai quelque chose, bien
oui,
sûr.
Vous avez
j'en ai
quoi ?
Plusieurs, même.
Ouais, il y en a plusieurs.
Sur Paris Première encore, à 21h05, j'ai Patton. Parce que figurez-vous que le lendemain, c'est un peu le 11 novembre.
Oui.
Donc, voilà, c'est un peu les films de guerre qui sont à l'honneur. Donc, George C. Scott, qui joue le général Patton, qui est envoyé à Tunis pour reprendre en main les troupes américaines qui viennent de subir de lourdes pertes face à l'Africa Corps de Rommel.
Moi, sur Citer, à 21h, j'ai Le Fugitif, le film,
le
remake
film
de la série avec Harrison Ford et
Tommy Lee Jones.
Et Patton, sûrement.
Magnifique.
Très grand film
avec
de
gros
suspense.
Gros accidents de train et tout. Ouais. Dans d'avion ou de train ?
Non, de train.
De train, oui, c'est ça, le train déraille. Hein.
Ouais.
Voilà.
Lundi ?
Lundi, oui, j'en ai un. Incontournable.
Oui, moi j'en ai. Alors j'en ai deux, voire trois. Du
moi j'ai pris Arte 20h55.
Ben oui. Les Sentiers de
le
la Gloire.
Le film incontournable de Kubrick. C'est son troisième ou quatrième long métrage.
Ouais.
Donc voilà, c'est sur l'absurdité de la guerre.
Oui,
et
sur des jeunes, des jeunes fantassins qui refusent d'obéir à un ordre absurde.
Ouais.
Qui pourrait mettre en jeu leur. Qui pourraient les mettre, ouais, mettre en jeu leur vie et on, ça, tout
mais
ce qui
sont,
en découle en fait.
C'est un colonel qui envoie au casse-pipe ces jeunes.
Ouais,
ces jeunes. Et bon, Et comme c'est un échec, eh ben, il dit avoir eu les donné ces ordres-là.
Autrement, sur W9, on a une soirée die-hard.
Oui, j'ai vu ça.
Voilà, c'était tout. Voilà. Ouais, parce que moi, je suis fan de Bruce Willis et
ah oui, non, mais moi,
du die-hard. Donc, une journée en enfer.
Ouais, chacun son truc. Et puis voilà. Après, c'est 48 heures pour vivre,
ouais,
c'est ça.
Ça.
D'accord, ok. Bon, ben, ça fait bien.
Eh ben oui, eh bien maintenant, on va continuer.
Eh ben, allons-y.
Retour à Tarantino.
Allez, soyons fous. Allez,
il est impossible de parler de lui sans évoquer sa passion pour la violence stylisée. Dans ses films, cette violence est souvent représentée de manière graphique, mais aussi esthétique, interrogeant ainsi notre rapport à celle-ci.
Par exemple, la fameuse scène du massacre dans Inglourious Bastard, c'en est un exemple parfait. Elle mélange l'horreur à une mise en scène presque théâtrale. Inglourious Bastard, dont voici d'ailleurs la bande-annonce.
Garde à vos rangs fixes! Bien, je me présente, lieutenant Aldo Reyn. J'ai besoin de 8 soldats. On va se pointer en France en tenue civile. On n'aura qu'un objectif à atteindre et un seul. Tuer du nazi.
À vos ordres, lieutenant!
Les membres du Parti National Socialiste ont conquis l'Europe par le meurtre, la torture, les menaces et la terreur. Nous allons leur rendre la monnaie de leurs pièces. Nous allons massacrer les soldats allemands. C'est par notre cruauté qu'ils vont nous connaître. Ils auront les preuves de notre cruauté quand ils trouveront les corps mutilés, démembrés, éventrés de leurs frères après notre passage. Les Allemands ne pourront pas s'empêcher de penser à la barbarie, aux atrocités que nous leur infligerons. Ils vont goûter à nos poings, aux talons de nos bottes et au fil de nos larmes. Les Allemands auront la nausée. Les Allemands vont nous entendre arriver. Les Allemands seront terrorisés. Les nazis n'ont aucune humanité! Il faut le détruire! Chaque soldat de mon commando devra me rapporter 100 scalps. Et j'entends avoir mes scalps. Est-ce que c'est clair?
Oui, lieutenant!
Ah!
Et ouais, on sait à quoi s'attendre.
Ah oui, attends, il fait pas semblant. Non, déjà dans la bande-annonce, il annonce sa couleur. Alors, le parcours de Tarantino dans l'industrie cinématographique est fascinant. De ses débuts en tant que vendeur de vidéos à Los Angeles à l'acquisition du statut d'auteur multiprimé, son ascension est un exemple parfait de détermination et de passion pour le 7e art. Avec des films qui continuent de susciter les débats et des analyses, Tarantino demeure une figure polarisante mais indéniablement influente.
En somme, Quentin Tarantino est un auteur qui a redéfini les codes du cinéma en alliant audace, créativité et une maîtrise exceptionnelle du récit. Ses œuvres continuent de captiver et de provoquer à la fois, témoignant d'un talent qui ne peut être ignoré.
Alors qu'on apprécie ou non son style, il est difficile de nier qu'il a profondément marqué l'histoire du cinéma moderne.
Alors la prochaine fois que vous visionnerez un de ses films, savourez chaque scène et chaque dialogue.
Alors nous l'avons dit, les bandes originales tiennent une place prépondérante dans l'œuvre de Tarantino. Il a un don exceptionnel pour sélectionner des morceaux musicaux qui résonnent parfaitement avec l'ambiance de ses films. Tiens, en voici un exemple avec Reservoir Dogs et son lot de chansons des années 70, dont George Baker Selection avec Little Green Bag.
Yeah. Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Sur 91.3, Eau de Radio, bien entendu.
Eh ben oui. Dans sa carrière professionnelle, Ghislaine Courtel a eu à exercer différents métiers.
Celui qui me laisse les meilleurs souvenirs, c'est celui d'ouvreuse de cinéma. Je l'ai pratiqué dans 3 salles de Blois durant 32 ans.
À l'automne 77, elle est recrutée pour occuper un des postes d'ouvreuse au studio et au Capitole.
Deux cinémas que possédait Monsieur Jouvencel, se rappelle-t-elle. Chacun d'eux disposait d'une seule salle. Celle du Capitole était magnifique, avec des sièges et des rideaux de velours rouge et un balcon.
De ce métier, Ghislaine ne garde que de bons souvenirs. En 67, une enquête est réalisée sur les ouvreuses de Paris. Alors certaines donnent leur avis sur les spectacles donnés dans les établissements où elles travaillent.
J'aime les hommes, moi, parce que d'abord, ils sont faciles à servir. Mais alors, les bonnes femmes, crois-tu, chérie, toi en avant, deux en arrière, t'es sûre que je vais être bien, il n'y a pas une tête plus grande devant moi. Oh là 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 là, tandis que le monsieur, je vous dis, monsieur, ça va, une du mieux, oui, madame, n'importe.
On peut être à cran.
Oui, mais il ne faut pas l'être.
Il faut essayer de ne
voilà,
pas l'être.
Il faut pas.
Quand un client vous marche sur le pied, oui, quand oui, vous avez oui, un bas déchiré. Oui, oui.
Moi, travaillant du côté de Pigalle, évidemment, c'est déjà un genre différent, mais de toute façon, il faut de la patience, alors en premier.
Quand un client vous donnait le pourboire, s'il était accompagné, il vous donnait largement un billet et déployait. Ou alors le client qui vous glisse dans la main, tout petit quelque chose. C'est très, très bizarre comme impression, vraiment.
Vous avez le client qui arrive et qui vous dit « Mademoiselle, je m'excuse, je n'ai pas de monnaie pour l'instant, je vous donnerai à la sortie. » Je trouve ça adorable parce que vous pensez que la sortie, bon...
Oh, les critiques, moi, elles ne m'intéressent pas, les critiques. D'ailleurs, elles me font rire. Parce que les critiques, quand on passe un film chez nous, ils peuvent l'assassiner. Nous, on fait complet. Alors, les critiques, non.
Les critiques...
Le métier d'ouvreuse est ancien. En 1919, un article de journal racontait.
Il n'est guère de spectateur qui n'ait maudit l'ouvreuse ou du moins se soit plaint de devoir accepter bon gré malgré ses offices. Et pourtant, ces honnêtes personnes qui, pendant des représentations tricotent ou dans un coin du couloir reprisent une paire de bas, sont de braves femmes qui viennent au cinéma pour gagner leur vie. L'ouvreuse n'est pas riche, son emploi lui est concédé par un directeur à qui elle doit verser une redevance quotidienne. Et pour recouvrer cette somme plus ou moins importante qui lui est réclamée chaque soir, il faut forcément qu'elle s'adresse aux spectateurs.
Mais sait-on que l'ouvreuse doit ses origines à la politique et au théâtre ?
Ah ben non.
Eh ouais, selon le même article de 1919, son poste fut créé en 1817 aux Français.
Ben, je ne savais pas. Mais figurez-vous que ce jour-là, un jour, on y donnait un drame, Germanicus, écrit par l'un des grands amis de Bonaparte. Alors le soir de la première représentation, on remarqua dans la salle deux clans de spectateurs d'opinions contraires, les partisans de Bonaparte et ceux des Bourbons.
Dès les premières répliques, les bonapartistes applaudirent, les royalistes sifflèrent. Ouais. À la fin du premier acte, ce fut une véritable bagarre. Il y eut des scènes de pugilat et on dut relever des blessés.
Alors pour éviter de telles manifestations tumultueuses, on décida de créer un vestiaire obligatoire. Et c'est ainsi que l'ouvreuse est née.
Chez Robert Charlebois, l'ouvreuse prend des allures de fantasme. Allez savoir pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi je retourne au ciné. J'ai vu le film 100 fois. Quelle étrange destinée, c'est qu'elle était ouvreuse. Elle m'a ouvert le cœur. Je passe des journées blanches à respirer ses hanches, à me sentir frôler sans pouvoir la toucher. Jamais osé lui parler, me croirait-elle de la censure? Elle a le téléphone, j'en suis sûr. Quand vient le moment, je reste cloué, ouais, 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 loué. m'a ouvert le cœur. Je suis au générique d'une pellicule tragique. Je ne mange plus que des glaces. Je fonds quand elle me place.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Je l'aime dans le noir. Cette lampe de poche, mon seul espoir. On se retrouvera ailleurs qu'au cinéma. Je lui dirai bonjour toi. Excusez-moi, j'ai très très envie de vous embrasser. Elle me répondra, moi aussi.
Il est 14h33 à notre horloge et c'est l'heure dans Ciné-Sans d'accueillir notre invité spécial. Bonjour Mélodie.
Et bonjour Annie.
Vous allez bien ?
Oui, ça va super et vous ?
Ben oui. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh ben aujourd'hui, je vais parler de Mélanie Laurent. Et ça tombe bien parce qu'en plus, vous avez parlé de Quentin Tarantino et elle a joué entre autres dans Inglourious Basterds.
Super scène d'introduction d'ailleurs.
Ouais, scène incroyable.
D'ailleurs, elle bosse dans un cinéma.
Oui, aussi.
Oui. C'est vrai, c'est une mise en abîme.
Oh, c'est ça.
Du coup, Mélanie Laurent est née d'un père comédien spécialisé dans le doublage, notamment les Simpsons avec une vingtaine de personnages à son actif, dont Ned Flanders pour les aficionados, et d'une mère professeure de danse. Et c'est Gérard Depardieu qui va lui offrir son premier rôle, dont un pont entre deux rives. On la verra par la suite dans de nombreux films, De battre mon cœur s'est arrêté, Dick Neck, Je vais bien, ne t'en fais pas, Paris, Inglourious Basterds, La RAF, La Trappe-Rêve, et encore récemment dans Voleuse sur Netflix. Mais ce n'est pas de sa performance d'actrice d'un naturel déconcertant dont je vais vous parler aujourd'hui, ni de son parcours remarquable aussi bien au cinéma qu'en tant que doubleuse, mais de ses talents de réalisatrice, et particulièrement son sublime travail sur Respire. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est sorti en 2014 avec entre autres Joséphine Japy et Lou Delage. Et c'est un film qui traite de l'amitié naissante de deux lycéennes, sauf que l'une d'elles est une perverse narcissique. Et l'ambiance est très prenante. Dans une interview, Joséphine Japy dira d'ailleurs que le jour où elle a découvert le scénario, c'était un dimanche de repas familial, elle n'a plus pu parler de la journée tellement elle était sous le choc du scénario.
Extraordinaire.
Une ambiance particulière. Et du coup, je souhaitais en parler aujourd'hui parce que le travail de Mélanie Laurent est d'une réelle justesse. L'étalonnage choisi est très particulier, notamment parce qu'il ne cherche pas à se démarquer de ses contemporains, mais à resituer une réalité crue et tangible. Le son, quant à lui, est rythmé par les crises d'asthme de la protagoniste et vient donner une sensation d'étouffement au spectateur. Du coup, ça vient un peu lier le caractère du personnage avec, cette sensation d'étouffement qu'on ressent et qui s'intensifie de plus en plus au fil du film. Et on se sent aussi oppressé que le personnage joué par Joséphine Japy. On a un jeu d'acteur qui est impeccable, surtout par la restitution des émotions. On ressent la fragilité, l'emprise, la peur, et on se laisse entraîner dans cette histoire dangereuse. Voilà. Et du coup, je crois que c'est l'un des seuls films avec Elephant Man qui m'a fait me sentir mal au point de devoir prendre un moment pour redescendre après le visionnage.
Ouais.
Tellement c'est intense et prenant.
En effet, oui.
Oui, tout à fait.
Et du coup, voilà. Pour moi, c'est une réussite rare dans le cinéma français actuel d'arriver à ce niveau de précision et d'émotion qui sont souvent convenus et revus. Et des fois un petit peu esthétisé aussi. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je souhaitais saluer le travail de Mélanie Laurent sur ce film et en parler un petit peu, et ça tombe bien vu qu'on est sur la thématique d'un homme et une femme. Bah, cette fois, j'ai parlé de Mélanie Laurent.
Qui est une femme.
Qui est une femme.
C'est, bah, merci Mélodie.
Avec plaisir.
Non, c'était très très intéressant. Je ne connaissais pas ce film du tout. Respire, vous dites.
Ouais, Respire.
Très bien, bah, je vais essayer de le trouver quelque part. Alors, sans transition aucune, hein. Deuxième nouveauté dans notre formule « Un homme et une femme ». Un petit quiz cinéma, ça vous tente ?
Ouais !
Histoire de tester les connaissances des personnes présentes dans le studio. Et pourquoi pas les vôtres, chers auditeurs et auditrices. Mais avant, jingle.
Jingle.
C'est qui ça ? Ça, c'est quoi ça ?
En effet.
Voilà.
Alors, j'ai toute une série de questions, plus ou moins simples, ou moins faciles. Je commence par la première. Quelle est l'année de sortie de Star Wars ?
Alors, on parle de quel Star Wars ?
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Le premier, l'original.
Alors, le premier.
Oui, le tout
79.
Premier.
79.
Non.
Ah.
81.
Non plus.
80.
Non.
2.
Non.
3.
Bon, vous avez perdu.
77.
77.
Yes.
Ah, 77, ouais, comme Blade Runner.
Absolument.
Pardon.
Alors, quel est l'acteur commun, tiens, justement, entre Star Wars et Indiana Jones ?
Harrison Ford.
Bien joué, Anne-Lise. Alors, question, voilà, il faut connaître le cinéma un tout petit peu. Dans quel film peut-on voir un plan séquence de 3 minutes 27 ? C'est précis et on en a parlé ici même.
C'est pas dans un James Bond ?
Non.
Birdman ?
Non.
On en a parlé ?
Oui.
Aujourd'hui, là ?
Non, pas aujourd'hui.
3 minutes 27.
Un plan séquence absolument fabuleux. Allez, je vous le donne.
Ouais, parce que alors moi j'ai celui de, mais je pense pas qu'il fasse 3 minutes, celui de l'ouverture du James Bond quand il est au Mexique.
Non, c'est pas celui-ci.
Eh ben, je ne sais pas.
Eh bien, c'est La Soif du Mal d'Orson Welles en 1958, avec cette espèce de grue qui monte, qui reprend les personnages.
C'est extraordinaire.
C'est vrai. Alors maintenant, qui a réalisé La Couleur de l'argent ?
Je sais qu'il y a Tom Cruise dans La Couleur de
l'argent.
Par
exemple, oui.
Que c'est le
on en a parlé il y a 10 minutes à peine.
Coppola, Tarantino,
non.
Scorsese.
Oui, bien sûr, Scorsese, évidemment.
Mais oui, c'est vrai, en plus.
Qui dit « Fuyez, pauvre fou ».
Ah, Gandalf, le Seigneur des Anneaux.
Alors, maintenant, plus compliqué. Qui a réalisé « Pierrot le fou » ?
Oh, alors là, j'en sais rien du tout.
C'est pas Godard ?
Si, c'est Godard, ouais, bien sûr. En 65. Qui dit « Je suis trop vieux pour ces conneries » ?
Mais c'est Bruce Willis dans...
Non. C'est Roger Murtaugh qui est incarné par Danny Glover dans L'Arme Fatale. Ils le disent dans chaque Arme Fatale.
Ok.
Alors maintenant, qui a réalisé Parasite ?
Ah, Park...
Non. Non, c'est pas lui. Non. Non, c'est pas Park. Bon, allez, je vous le laisse.
Lee Jones,
c'est Bong Joon-ho.
Ouais, voilà, c'est ça.
En 2019. Alors, tiens, citez-moi les deux amis de Harry Potter.
Ron Weasley.
Et Hermione.
Granger,
très bien. Ah, qui a réalisé Gandhi ? Ah, c'est un vrai quiz de cinéphile.
C'est pas...
Non, c'est pas lui. C'est Richard Attenborough.
Bon, alors, je l'avais pas du tout.
D'accord, ok.
Je l'ai pas vu, d'ailleurs.
Magnifique.
Sûrement.
Gandhi, magnifique. Quelle chanson entend-on à la fin de L'homme qui en savait trop ?
Mais qu'est-ce que c'est que ces questions, Patrick ?
On en a parlé l'autre jour.
Mais je sais pas, une musique, une chanson.
Oui, on l'a entendu même.
Oh là là, quelque chose.
Que sera, sera.
Ah oui.
Doris Gray, 1958. Ah, alors, là, important quand même. Pour quel rôle Leonardo DiCaprio a-t-il reçu un Oscar ?
Ah, dans Revenant.
The Revenant, absolument, en 2015. Anne-Lise, c'est pour vous.
Mince.
Qui a réalisé La Haine ?
Matt Kafsovitz.
Bien. Alors, quel couple joue dans Match Point ? Un film que vous aimez particulièrement de Woody Allen.
Comment elle s'appelle cette actrice ? Oh,
voilà, bon, d'accord, c'est Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson, ouais, voilà. Oh, le deuxième, je sais pas.
Bah, c'est Jonathan Rhys Meyers.
Ah, ben c'est ce que j'allais dire.
Alors, où vit Batman ?
Bah, dans sa grotte.
Non.
Gotham City.
Ah, mais la ville, mais précisez, soyez précis.
Oh, je vous en prie, Anne-Lise. Alors, complétez les répliques suivantes. Tiens, alors là, on va se marrer.
Vous en avez encore beaucoup comme
j'en,
ça ?
J'en ai 30.
Une trentaine.
Non, mais on n'a pas 3 jours. Hein,
non, je sais, mais c'est les dernières.
D'accord.
Hein. Complétez les répliques suivantes. Les cons, ça ose tout.
C'est à ça qu'on les reconnaît.
Bien joué. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire.
Ah
oui. Vous voulez un whisky ? Juste un doigt.
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
T'as de beaux yeux, tu sais.
Ah bah moi je connais que cette réplique, t'as de beaux yeux, tu sais.
Il y a la suite. Il y a la suite. Il y a la suite de la réplique.
Bah, hein? Moi je connais que cette réplique là.
Et Michel Morand lui répond : embrasse-moi.
Ah.
Sur la palissade. La vie c'est comme une boîte de chocolat.
Je sais que c'est dans Forrest Gump.
Oui,
j'ai
moi aussi,
suite.
Mais alors...
on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais. Voilà. Alors, une réplique spécialement pour vous.
Ah, super.
Deux intellectuels assis vont moins loin...
Qu'un intellectuel debout.
Non, mais non. Qu'une brute qui marche.
Ah.
Alors, une phrase culte que j'adore, c'est pas une métaphore, c'est une périphrase. C'est un dialogue d'Audiard, ça. Et la réponse, c'est « Oh, fais pas chier. » Ça, c'est une métaphore. Voilà, merci, c'est tout pour
merci.
Moi.
Merci. C'était merveilleux.
Ah, c'était,
allez,
c'était
à
bien,
la
hein.
suite.
À la suite, tout de suite, la suite.
Hein. Ah, ah, tiens, bonsoir.
Ah. Eh ben...
Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial, ce genre de spectacle. Hein.
Ça, c'est vrai, ça.
Eh ouais, ça, c'est vrai, ça.
Mais c'est du Pontel.
Mais presque. Eh bien, vous l'avez reconnu, le petit jingle pour les sorties de demain, mercredi 5 novembre. Qu'est-ce qu'on va trouver au cinéma ?
Alors, moi, j'en ai 3.
Alors, moi, j'en ai 2. Et on a 5 minutes.
Ça,
hein.
Ça va le faire.
Alors, allez-y,
alors,
commencez. Votre
j'ai
premier.
3 films de 3 personnes que j'aime beaucoup.
Ah.
J'ai 3 amis d'Emmanuel Mouret,
ouais.
Parce que j'adore Emmanuel Mouret, cette espèce d'intellectuel qui fait beaucoup de phrases. On a tendance à parler que c'est un peu théâtral, c'est un peu très très écrit, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est avec Camille Cotin, Sarah Forestier et India Air. C'est une sorte de triangle amoureux, encore une fois, chez lui, c'est assez fréquent. Ensuite, j'ai Au boulot, de François Ruffin.
Ruffin,
parce que
oui.
J'aime beaucoup François Ruffin.
Oui.
Alors c'est quoi ce pays d'assister, le feignasse sur le plateau des grandes gueules, l'avocate parisienne Sarah Salban s'emporte, le speak c'est déjà pas mal, d'où l'invitation du député François Ruffin, je vous demande d'essayer de vivre madame Salman avec, pendant 3 mois avec 1 300 euros. Voilà, ça c'est ce qu'il lui avait balancé. Et le dernier film, peut-être que vous allez en parler parce que je vous sens très républicaine aujourd'hui.
Non, moi j'en ai 2, j'ai Voyage à Gaza de Piero Usberti. C'est un documentaire sur qui a été tourné en 2018. Piero Usberti va à Gaza et dans son voyage, il va filmer les gens qu'il rencontre. C'est un peu montrer un peu ce que c'est Gaza, la beauté de cette ville qui est en Palestine, parce que la Palestine est un pays. Et il ne faut pas déshumaniser une guerre, il faut montrer qu'il y a des gens qui habitent dans les endroits où on fait la guerre et que ces gens meurent. Et c'est un très, 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 très beau documentaire. En tout cas, ça a l'air.
Oui.
Et le deuxième, ça s'appelle L'affaire Novenka d'Isiar Bolien, qui est un film espagnol. C'est sur une jeune femme qui est parvenue à traduire en justice un homme politique pour harcèlement sexuel au travail. On va la suivre, en fait, dans son combat. C'est une des premières femmes en Espagne. C'est d'une histoire... D'une histoire vraie. Et ça a l'air d'être un film assez fort sur justement le parcours de cette femme qui se fait au départ en fait malmenée par les médias ou les gens qui lui disent
oui,
mais pourquoi elle fait ça,
c'est
personne
ça, ouais.
voilà.
Donc, moi, elle veut récupérer de l'argent et tout quoi.
Oui voilà, genre elle a que ça à faire
quoi,
un truc normal.
Mais écoutez, moi je vais être républicain pour le coup.
Eh bien allez-y.
Et non pas par rapport à ce soir hein, mais je vais vous parler du dernier film d'Éric Bénard avec Alexandra Lamy,
oui.
Le fabuleux Grégory Gadebois, qui est un acteur que j'adore, et Jérôme Kircher, le film s'appelle Louise Violet. Alors, en 1889, envoyée dans un village de la campagne française, l'institutrice Louise Violet doit y imposer l'école de la République, gratuite, obligatoire et laïque, une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants, ni auprès des parents.
Et
c'est pareil, c'est une chronique sur le devenir de l'école. Surtout en ce moment, on a un petit peu besoin d'en parler.
Oui.
Que l'école est un petit peu mise à mal. moins depuis quelques temps, mais on ressasse encore des vieilles rancunes de la part de gens qui sont un peu dans l'obscurantisme et qui ne veulent pas que l'école de la République fasse son devoir d'émancipation des citoyens. Voilà, ce sont
très
mes
bien.
Trois films.
Des beaux films.
Ouais, c'est très très beaux films,
je pense.
Je vous remercie. Eh ben, vous savez quoi ?
Quoi ?
Eh ben, voilà. Une heure, c'est vite passé. Hein.
Oh.
Eh ben, 60 minutes à parler de cinéma, ça fait accélérer le temps. Même si une minute à la radio, c'est pas une minute dans la vie. Ben voilà, 6 décembre, c'est fini.
Oh, dommage.
Ben oui, mais pour aujourd'hui, Yann-Lise, allons, rassurez-vous, puisque nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré à l'année 68, riche en événements de toutes sortes.
Et ce sera à 14h sur O2 Radio 91.3, bien entendu.
Alors, comme d'habitude, on va pas se répéter, mais on va le faire quand même. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ainsi que ceux qui l'ont précédé, rien de plus simple. Vous vous rendez sur le podcast d'O2 Radio et vous y avez accès. Hein, c'est libre et gratuit, c'est quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Ben nous, on va se quitter avec la chanson dénichée par notre Géotrouve-Tout préféré, la chanson Perle de la semaine.
En 1964, on ne dit plus de Pierre Vassilius. Qui c'est celui-là, vu qu'il connaît déjà la notoriété avec des titres comme celui qui vient, Alice. Vassilius nous a quittés en 2014, hommage à lui, qui admirait Bobby Lapointe pour son humour décalé et son esprit anticonformiste.
Alors Vassilius, c'était sans doute le frère de Pierre Vassilius qui...
Vassilius.
Oui, mais enfin, c'est pas grave. Donc, un mardi... Mais c'est rien, il y avait un S en trop à Vassilius, c'est tout.
Je n'ai pas fait attention.
Non, mais c'est pas grave, vous mettez des S partout. Donc à mardi prochain, et en attendant,
bon vent à tous.
Quand j'ai connu ma douce Alice, c'était à l'hôpital Saint-Louis. Je faisais soigner mes varices et de vilaines maladies. J'étais heureux dans ma chambrette, quand tous les jours à la même heure, elle déposait dans ma casquette du chocolat pour mon 4. Elle était belle et bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais nom de nom qu'elle était con, la veuille ou non, timide. Je me souviens des beaux dimanches que l'on passait dans le jardin. Je la tenais par les manches, puisqu'elle avait perdu ses mains. Et c'est la raison pour laquelle on ne m'a jamais reproché, simplement pour la bagatelle d'avoir vécu à ses crochets. Elle était belle et bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais non de nom qu'elle était con, le veuille ou non, timide. Je n'oublierai jamais non plus le jour où elle m'a dit je t'aime, car depuis ce temps-là j'y vois plus et j'ai sans arrêt des migraines. Car en courant pour m'enlacer avec l'élan d'une femme seule, elle a marché sur mon lacet et je me suis cassé la gueule. Elle était belle et bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais non de nom qu'elle était con, le veuille ou non, timide. Elle eut une enfance malheureuse, tout comme son frère le pauvre Armand. Elle avait vécu en couveuse, presque jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle en mourut, mon infirmière, tout bêtement et d'un seul coup. Un jour qu'elle mangeait du gruyère, en glissant tomba dans un trou. Elle était belle et bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais elle était vraiment trop, mais elle était vraiment trop, mais elle était vraiment trop bête.